Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
J'ai deux excellentes nouvelles pour vous. Dans quelques instants, nous serons avec Laurent Gérard. Mais tout de suite, et c'est l'autre bonne nouvelle, la revue de presse. À 8h41 d'Isabelle Choquet. Et dans vos journaux ce matin, rien de bien bien propre.
Savez-vous, Yves, pourquoi certaines femmes demandent le premier rendez-vous de la journée chez le gynéco?
J'ai une petite idée.
Parce qu'elles doivent passer une échographie intime et c'est le seul moyen d'être certaine d'avoir une sonde propre. C'est ce que dit dans Le Parisien le professeur Frija, qui est radiologue. Le Parisien qui révèle un rapport assez hallucinant sur l'hygiène hospitalière. On tombe de l'armoire entre deux patientes, les sondes ne sont pas désinfectées à fond. Et pour cause, la réglementation française ne l'impose pas. La règle, c'est une fois par jour. Le reste du temps, la sonde est protégée par une sorte de gros préservatif et puis elle est nettoyée à l'aide d'une lingette. Ça représente tout de même 4 millions d'actes médicaux par an. Les échographies vaginales de suivi de grossesse, les diagnostics de maladies de l'ovaire, de l'endomètre, de l'utérus et ne vous dites pas que c'est un problème de bonne femme. Les hommes sont concernés aussi avec les échographies de surveillance Évidemment. De la prostate ou de la vessie. Pour les auteurs du rapport, notre système est une incohérence mondiale. Nous avons 20 ans de retard car nos normes d'hygiène sont inférieures à toutes celles préconisées au niveau européen et même mondial. Il faut dire que la propreté coûte cher. Il y a une différence d'un euro entre un simple coup de lingette et la désinfection complète. Et puis le risque de contamination est infime, mais il existe. Mycose, staphylocoque ou même papillomavirus, le responsable du cancer de l'ovaire. Aucun cas heureusement jusqu'à présent. Mais si un jour cela arrive, dit un médecin, nous serons dans le scandale sanitaire. Il faut viser le risque zéro.
Alors on va faire maintenant ce qu'on appelle une césure. Tout autre chose, dans Libération, les confessions du dealer des stars.
Il s'appelle Gérard Forêt et il sort aujourd'hui son autobiographie. Un beau voyou, dit Libé. Un authentique trafiquant de cocaïne, doublé d'un braqueur de banque et tueur à gages à l'occasion. Oui. Dans son bouquin, ça balance pas mal, sur le showbiz bien sûr. On apprend par exemple que les caïds du milieu Tony Zampa et Francis le Belge s'écharpaient dans les années 80 pour être le fournisseur exclusif de Johnny Hallyday. Forêt le considérait comme sa plus belle prise de guerre, mais, écrit Libé, il lui garde un chien de sa chienne car le chanteur l'a balancé sans vergogne au stup contre sa propre immunité. Notre truand assure que lui, il n'a jamais balancé, en tout cas jusqu'ici. Mais là, il se lâche et pour la première fois, les politiques sont cités. Il raconte ainsi son face-à-face avec une juge en 1986. « Si vous le voulez bien, dit-elle, j'attends votre version des faits s'agissant des deux chèques de M. Chirac rédigés à votre ordre. Je vous invite à bien réfléchir avant de répondre. » Tempête sous un crâne. Finalement, Gérard Forêt évoquera une dette de jeu au backgammon. J'avais dû travestir la vérité, dit-il aujourd'hui. Il ne dit pas que l'ex-président prenait de la coke, mais il évoque son penchant pour les femmes. Pour l'anecdote, il y aura opposition sur les deux chèques en question. Forêt est amer. Chirac, dont j'avais admiré la prestance et même les idées politiques, s'est avéré mauvais payeur. Le livre s'achève sur un hommage étrange à la police. Lors d'une perquisition à son domicile, 10 des 15 kilos de cocaïne disparaissent, tout comme 90% des 300 000 euros logés dans un tiroir. Mais là, Forêt est philosophe. Je n'ai pas pensé un seul instant à me plaindre. Ces vols ne pouvaient qu'alléger ma future condamnation.
Il y a ce matin dans la presse une voix qu'on aimerait entendre sur cette antenne.
Une voix qui vient de loin, de très loin, lit-on dans Le Monde. Difficile à la première écoute de tout comprendre. Est-ce du français? Ah oui, mais avec un tel accent, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour saisir ce que cet homme nous dit. Il dit « Je suis des environs de Belfort. Je suis parti soldat pour faire mes 2 ans. J'étais déjà à rentrer, mais la guerre est venue et j'ai fait comme les autres. » Cette voix, c'est celle de Jean Beauseigneur. Des comme lui, il y en a 2000 environ. 2000 combattants de la Première Guerre mondiale qui, comme ce poilu de 26 ans, ont été faits prisonniers par les Allemands dans la Somme, à Verdun ou ailleurs, et dont les voix ont été scrupuleusement enregistrées pendant leur captivité entre 1915 et 1918. À chaque fois, on demande aux prisonniers de raconter son histoire, de chanter une chanson ou de lire un texte. La commission phonographique prussienne voulait alors du matériau pour former une immense bibliothèque destinée à l'apprentissage des langues. Dans ces camps, en effet, on parle le français, mais aussi ses différents patois et toutes les langues de l'empire colonial. Environ 250 au total, du Wolof au Bambara, en passant par le Sakalova ou le Peul. On en a fait quelques disques et puis des livrets pédagogiques. Le projet s'est perdu, mais les archives sont restées. À l'occasion du centenaire de l'armistice, Berlin va enfin les présenter au public. L'ambassade de France va même composer un récit sonore intitulé « Même mort, nous chantons ». On va donc entendre ces poilus pour de vrai.
Autre temps, autre mœurs, Isabelle. Aujourd'hui, avec les téléphones, on ne se parle plus.
Ben non, ils vont textote, on Snapchat, on WhatsApp. Et pour ça, on est aidé par cette calamité technologique, le correcteur orthographique. Tu parles d'une aide. Combien de fois on a envoyé un message qui est parvenu à son destinataire totalement dénaturé, avec parfois des conséquences assez fâcheuses. Exemple, rentre dans moi, je vais chez ma copine Maude, au lieu de rentre sans moi. On peut être ami avec lui, mais sexuellement ami. Enfin, je veux dire, seulement ami. Et puis j'adore ce mari attentionné à qui sa femme écrit « Ah là là, je suis grosse !» et qui lui répond « Mais non chérie, chaque kilomètre carré en toi est beau, il faut lire millimètre, bien sûr !» Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans Vanity Fair, l'inventeur du correcteur de l'iPhone, Ken Koscienda, demande « Pardon, je suis fier de ce que j'ai fait, dit-il, enfin fier de ce que j'ai fait, mais la technologie a ses limites. » Et de rappeler que l'autocorrection reste la meilleure solution pour écrire un texte sur un téléphone, que ça nous plaide ou non.
Isabelle Choquet nous proposait sa revue de presse dans quelques instants. Laurent Gérard et toute son équipe au grand complet, c'est promis.